Chapitre 27. La valise de Carla reposait sur le lit, à moitié pleine. L'armoire aussi était ouverte, et divers vêtements avaient été jetés sur le couvre-lit. Carla avait du mal à se décider. Elle ne savait pas pour combien de temps elle partait, ni ce dont elle aurait besoin. Une vague de froid s'était abattue sur Londres, mais plus au sud, il ferait meilleur, non ? Elle attrapa quelques affaires au hasard sur les étagères, des t-shirts, des pulls, une robe qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Quelque part dans la maison, son portable sonnait. Il sonnait toujours. Il ne s'arrêtait jamais. Il faudrait bien qu'elle parle à Théo, elle le savait, pour lui demander de lui transférer son courrier là où elle choisirait d'aller et de gérer le notaire et la vente de la maison d'Angela. Ils se disputeraient, bien sûr. C'était pour cela qu'elle hésitait à opter pour la lâcheté et lui téléphoner une fois arrivée à l'étranger. Mais elle ne pensait pas être capable de lui faire une chose pareille. Partir sans plus jamais le revoir. Elle ne pensait pas être capable de se faire une chose pareille à elle-même. Elle avait aussi besoin de lui dire qu'elle avait jeté un coup d'œil à son manuscrit et que cela ne lui avait pas plu, tous ses allers et retours, ses sauts intempestifs dans la chronologie. Comme le dernier, cet affreux roman policier. Ce n'était tout de même pas compliqué de commencer par le début, bon sang. Pourquoi personne ne semblait plus en mesure de raconter clairement une histoire, du début à la fin ? Un mois avant la mort d'Angela, Daniel était venu frapper chez Carla un dimanche soir, vers 8 heures. Il semblait contrarié, agité. Il avait une égratignure sur la joue et une coupure sur la lèvre. Il lui avait raconté une histoire incohérente de dispute avec sa copine, suivie d'une agression en pleine rue. Carla avait eu du mal à suivre le fil, mais pas la conclusion. Il n'avait nulle part où aller. Il ne voulait pas appeler la police et il était hors de question qu'il aille voir sa mère. « Elle ne voudra pas de moi chez elle, » dit-il à sa tante. « Elle n'a jamais voulu de moi. » Carla répondit qu'il pouvait rester. Elle ouvrit une bouteille de vin qu'ils vidèrent un peu trop rapidement, puis une seconde. Ce fut arrivé à la moitié de celle-là que Carla sut qu'elle ferait mieux de s'arrêter. Elle monta à l'étage, se doucha et, enroulée dans sa serviette, tituba de la salle de bain à son lit. Plus tard, elle se réveilla en sursaut, comme cela lui arrivait souvent quand elle avait bu. Elle resta immobile, le cœur tambourinant dans la poitrine, et il lui fallut un moment pour se rendre compte qu'elle avait repoussé les couvertures et s'était débarrassée de sa serviette. Il lui fallut un moment de plus pour que ses yeux s'habituent à la pénombre et qu'elle constate qu'elle n'était pas seule. Il était assis par terre, près de la porte, son carnet de croquis sur les genoux, et il la regardait. « Daniel, » murmura-t-elle en remontant vivement la couverture. « Tu m'as fait peur. » Dans l'obscurité, elle ne distinguait pas son expression, uniquement le blanc de ses dents. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, » répondit-il. Au matin, elle le trouva assis dans la cuisine en train de boire un café. « Bonjour, » l'accueillit-il sans une trace de gêne. Elle choisit de s'affairer, de remplir la bouilloire, de mettre les verres de la veille dans le lave-vaisselle. « Dis, » reprit Daniel, « je me demandais si tu pourrais m'héberger quelques jours. » Carla se tourna vers lui. Il lui souriait, si candide, si beau. « Je suis désolée, Daniel, » marmonna-t-elle. Et le sourire de son neveu vacilla une brève seconde. « Je voudrais bien, mais... Théo, il n'aimerait pas que... » Elle esquiva son regard. « D'accord, » dit son neveu. « Je comprends, ce n'est pas grave. » Un mois plus tard, quand il la rejoignit chez Angela pour récupérer ses affaires, il lui parut fatigué et malheureux. Il refusa d'abord d'entrer dans la maison. Une dispute faillit éclater entre eux. « Il faut que tu vois ce qu'il y a, Daniel. Je ne peux pas tout trier à ta place. Je ne peux pas choisir pour toi. Tout ce que je veux, c'est mes affaires, mes carnets, ce genre de choses. Je ne veux rien qui lui ait appartenu, à elle. » Enfin, il accepta d'entrer et grimpa aussitôt à l'étage, dans sa chambre. Il prit le carton dans lequel Carla avait rangé tous ses cahiers et ses carnets. « Tu ne les as pas regardés, hein ? Parce que, » ajouta-t-il avec une grimace, « ce n'est pas terrible, tu sais. Non, non. » l'assura Carla. « Tu as toujours dit que personne ne devait voir tes dessins. » Il sourit. « Merci, Tati Carla. » Chaque fois qu'il l'appelait comme ça, cela lui faisait un pincement au cœur. Cela lui rappelait quand il était petit garçon, farouche et vulnérable à la fois, avec ses yeux immenses qui lui mangeaient le visage. Un pauvre petit sauvage. Elle s'avança pour l'embrasser sur la joue, mais au dernier moment, il tourna la tête et lui effleura les lèvres. « J'ai loué une péniche », annonça-t-il avant de repartir. « Elle est sur le canal, pas loin de Whitmore Bridge. Et comme elle appartient à un ami d'amis, il me fait un prix. C'est un trou à rats, mais c'est tout ce que je peux me permettre en ce moment. Tu viendras me rendre visite, hein ?» Carla le suivit des yeux tandis qu'il quittait la pièce, chargée du carton, et que sa basket s'accrochait à un fil de la moquette en haut des marches. Il se retourna et lui sourit. « Prends soin de toi, d'accord ?» Un jour ou deux plus tard, peut-être trois, Carla était chez Angela pour faire un dernier tour et vérifier qu'elle n'avait rien oublié avant l'arrivée des déménageurs, quand elle découvrit une pile de lettres au fond de l'armoire de Daniel. Trois d'entre elles avaient été envoyées par Angela à Marcus, le père de Daniel, et les enveloppes étaient marquées du tampon « Retour à l'expéditeur ». Les courriers eux-mêmes semblaient avoir été manipulés de nombreuses fois, lus et relus. Ce pouvait bien sûr être le fait d'Angela, mais Carla devina que c'était plutôt Daniel qui les avait étudiés avec autant d'attention. Et quand elle pensa à Daniel en pleine lecture, ce fut le petit garçon qu'elle imagina, penché dos à elle, sa coiffure proprette, les bleus sur son cou. C'était ce Daniel qu'elle vit lire les mots de sa mère, pas cet homme étrange qu'il était devenu. Et cette image lui serra le cœur. Cela lui serra le cœur de penser à cet enfant, découvrant les paroles blessantes que sa propre mère avait écrites à son sujet, à l'attention du père qui l'avait rejeté. Cela lui serra le cœur de voir Angela appeler à l'aide pour son fils, ce garçon qu'elle ne présentait que comme un problème, quelque chose à résoudre, à régler. « Je perds la tête », avait-elle écrit. « Sa présence m'est insupportable. Il faut que tu m'aides, Marcus. Je n'ai personne d'autre à qui demander. » Sur le chemin du canal, elle acheta une bouteille de vin. Elle ne voulait pas lui parler sans un verre à la main, et elle s'efforçait de ne pas s'attarder sur la raison de ce besoin. Elle s'efforçait aussi de ne pas penser à cette soirée chez Angela, quand il avait accroché la moquette avec sa basket, ce qui n'avait aucune importance d'ailleurs. Si ? Elle descendit les marches jusqu'au canal, et près de Whitmore Bridge, elle aperçut deux péniches. L'une très belle, avec sa peinture vert foncé et son liseré rouge sombre, et la seconde complètement décatie, un tas de rouille bleu et blanc. Elle toqua à un carreau, grimpa sur le pont arrière et frappa à nouveau à la porte de la cabine qui s'ouvrit. « Daniel ? Daniel, tu es là ?» Il était absent, mais au moins elle était au bon endroit. Le carton qu'il avait récupéré chez Angela était posé sur le comptoir. Plusieurs carnets étalés sur le banc, de l'autre côté de la petite pièce. La péniche elle-même était dans un état déplorable. L'évier et la cuisinière étaient dégoûtants, la cabine sentait le bois pourri, et la chambrette au fond du bateau empestait la sueur et le sperme. À l'évidence, Daniel avait reçu de la visite, et à cette idée, Carla sentit son estomac se nouer, et une vague de honte l'assaillit aussitôt. Daniel était un adulte, un jeune homme de 23 ans. Elle n'avait aucune raison de ressentir le moindre malaise en découvrant qu'il fréquentait quelqu'un. D'ailleurs, elle n'avait aucune raison de ressentir quoi que ce soit. Carla sortit de la chambre et ramassa un des carnets sur le banc, qu'elle feuilleta avec un pincement de culpabilité. Il s'agissait de croquis au crayon, des visages anonymes, des membres désincarnés. Elle le reposa et en prit un deuxième. Celui-là était recouvert de dessins à l'encre, plus détaillé, plus sophistiqué. Un véritable roman graphique, apparemment, dont Daniel lui-même était le protagoniste. Sur la première page, elle remarqua un titre, « Les origines d'Arès », et sa vision se brouilla de larmes. Arès, le belliqueux, la plus haïe de toutes les divinités, celui que même ses parents ne pouvaient supporter. Oh, Daniel. Au fil des pages, Carla sentit de nouveau son ventre réagir lorsqu'elle se reconnut, plus jeune, plus séduisante, plus belle et surtout plus pulpeuse qu'elle ne l'avait jamais été dans la réalité. Les joues brûlantes de gêne, elle referma le carnet, le remit en place sur le banc et, presque sans réfléchir, le reprit. Elle l'avait toujours à la main lorsqu'elle était remontée sur le pont, et l'espace d'une seconde avait croisé le regard d'une femme qui l'observait intensément de la belle péniche vert et rouge amarrée quelques mètres plus loin. Carla tira la fermeture éclair de sa valise, la descendit au rez-de-chaussée et la posa dans l'entrée. Dans le salon, elle écouta ses messages. L'un de l'inspecteur Barker, lui demandant de le rappeler au plus vite, et l'autre de Théo, qui l'invitait à dîner.
« Ton plat préféré, des côtes d'agneau. Je ne sais pas si on t'a prévenu, mais il y a une bonne nouvelle, Carla. Enfin !»